Chapitre 37. Richard se réveilla quand il entendit Callan revenir et jeter un peu de bois dans le feu. Une lumière rose commençait à couronner les montagnes, les nuages noirs faisant une toile de fond parfaite aux pics enneigés. Les grands yeux ouverts, étendus sur le dos, Zed ronflait comme un sonneur. Richard se frotta les yeux et bâilla sans décrocher la mâchoire. « Que dirais-tu d'une bouillie de racines de tava ? » murmura-t-il pour laisser le sorcier continuer son somme. « Que du bien !» souffla Callan. Richard sortit les racines de son sac et entreprit de les peler avec son couteau. Callan se mit en quête d'une casserole. Quand il eut débité les racines, il les jeta dans l'eau, tirée d'une outre, qui chauffait déjà. « C'étaient les dernières, » dit-il. « On devra creuser pour en trouver d'autres, mais... j'ai peur qu'on ne déniche pas de tava dans un sol aussi rocheux.
« J'ai cueilli des baies, » l'informa Callan.
Ils se réchauffèrent les mains au-dessus des flammes. « Cette femme est plus puissante qu'une reine, » pensa le sourcier. Il essaya d'imaginer une souveraine, avec sa couronne et sa robe d'apparat, occupée à ramasser des baies.
« Tu as vu quelque chose pendant ton tour de garde ?»
La jeune femme secoua la tête, puis elle sembla se souvenir d'un détail.
« À un moment, j'ai entendu un bruit étrange, par ici, près du camp. D'abord un grognement, puis un cri. J'ai failli venir te réveiller, mais c'était très bref et ça ne s'est pas reproduit. »«
Près du camp, dis-tu ? » fit Richard en regardant autour de lui.
« Je me demande ce que c'était, mais ça ne m'a pas tiré du sommeil, sans doute parce que j'étais trop épuisé. »
Il vérifia que les racines étaient cuites, les retira du feu, les écrasa avec une fourchette et mit un peu de sucre. Callan les servit et ajouta une grosse poignée de baies sur chaque bol.
« Tu ne réveilles pas Zed ? »
demanda-t-elle.
« Regarde bien !»
fit Richard tout sourire. Avec sa cuillère, il tapa doucement contre le bol en étain.
Zed grogna et s'assit comme s'il était une marionnette dont on venait de tirer les fils.
« Le petit déjeuner est prêt ? »
demanda-t-il en clignant deux fois des yeux. Lui tournant le dos, Richard et Callan gloussèrent bêtement.
« Tu es de bonne humeur ce matin, »
dit la jeune femme à son compagnon.
« C'est normal, Zed est de nouveau avec nous. »
Richard approcha du sorcier, lui tendit une portion de bouillie, puis s'assit sur une pierre plate pour s'attaquer à la sienne. Callan s'installa confortablement sur le sol, une couverture enroulée autour des jambes. Le sorcier commença à manger sans s'extraire de la sienne. Attendant le bon moment pour agir, Richard savoura lentement son petit déjeuner pendant que Zed l'engloutissait.
« Succulent !»
s'exclama le vieil homme.
Il se leva pour aller se resservir.
Richard attendit qu'il soit occupé par la casserole et lâcha.
« Callan m'a raconté. Elle m'a dit comment tu l'as obligé à tout lui révéler à propos de Shota. »
La jeune femme se pétrifia comme si elle avait été frappée par la foudre. Zed se releva et se tourna vers elle.
« Pourquoi lui as-tu parlé ? Je croyais que tu ne voulais pas qu'il sache que... »«
Zed, je n'ai pas... »
Le sorcier fit la grimace et regarda Richard, qui continua paisiblement à manger et ne daigna même pas relever les yeux.
« Elle ne m'a rien dit. C'est toi qui viens de te trahir. »
Le sourcier porta sa dernière cuillerée à sa bouche, avala lentement, lécha son couvert et le laissa retomber dans le bol. Puis, son regard, calme et triomphant, se riva dans celui de Zed. « La première leçon du sorcier, » annonça-t-il avec un sourire en coin.
« On gobe un mensonge parce qu'on désire y croire ou parce qu'on a peur que ce soit la vérité. »«
Je vous l'avais dit !»
explosa Callan.
« Je savais qu'il découvrirait tout !»
Zed ignora l'intervention de la jeune femme, ses yeux soudain ternes ne quittant pas ceux du sourcier.
« J'ai réfléchi cette nuit, » annonça Richard en posant le bol, « et j'ai conclu que tu avais raison de vouloir savoir à propos de Shota. Pour un sorcier, il y a peut-être là-dedans quelque chose d'exploitable contre Darkenral. Sachant que tu n'abandonnerais pas avant d'être informé, j'avais décidé de t'en parler aujourd'hui. Puis j'ai compris que tu forcerais Callan à se confier d'une manière ou d'une autre. »
Callan se rassit sur sa couverture en riant aux éclats.
Fichtre foutre!
S'écria Z les poings sur les hanches.
Richard, as-tu idée de ce que tu viens de faire?
De la sorcellerie. J'ai entendu dire qu'un truc, quand il est bien fait, équivaut à la magie.
Vraiment?
Fit Z en secouant la tête. Il brandit un index squelettique, ses yeux de nouveau vifs et brillants.
Tu as piégé un sorcier avec son propre axiome. Aucun de mes élèves n'avait jamais réussi ça.
Il fit un pas en avant, un grand sourire sur les lèvres.
Fichtre et foutre, Richard. Tu as le don. Oui, tu l'as. Tu pourrais être un sorcier du premier ordre, comme moi.
Je n'ai aucune intention d'entrer dans ta confrérie.
Tu as passé la première épreuve,
continua Z, comme s'il n'avait rien entendu.
Tu viens de dire qu'aucun de tes élèves n'y était parvenu. Comment sont-ils devenus des sorciers s'ils ont raté la première épreuve?
C'étaient des sorciers du troisième ordre. Jiller est du deuxième. Tous ont raté les épreuves qui donnent accès au premier. Ils n'avaient pas le don, juste la vocation.
Ce n'était qu'un truc, dit Richard. Ne fais pas une montagne d'une souris.
Un truc très réussi. Je suis impressionné et rudement fier de toi.
Si c'est la première épreuve, combien y en a-t-il d'autres?
Ma foi, je n'en sais trop rien. Quelques centaines à peu près. Mais tu as le don, Richard.
Une ombre d'inquiétude passa dans les yeux de Z comme s'il était pris au dépourvu.
Tu devras apprendre à le contrôler, sinon...
Son regard pétilla de nouveau.
Je t'apprendrai. Tu peux vraiment devenir un sorcier du premier ordre.
S'avisant qu'il écoutait avec un intérêt suspect, Richard secoua la tête pour s'éclaircir les idées.
« Je te l'ai déjà dit, être un sorcier ne m'intéresse pas. »
Il ajouta, marmonnant dans sa barbe, « Quand tout sera fini, je ne veux plus avoir affaire à la magie. » Soudain, il remarqua que Kalan aussi le regardait avec des yeux ronds.
« Arrêtez ça tous les deux. C'était un truc, une ruse très simple, rien de plus. »
« Si tu l'avais fait à quelqu'un d'autre, ce serait vrai, mais abuser d'un sorcier... »«
Vous êtes tous les deux des... »
commença Richard.
« Peux-tu commander au vent ?»
coupa Z en tendant le cou vers son protégé. Richard recula d'un demi-pas.
« Bien sûr, »
dit-il, entrant dans le jeu du vieil homme. Il leva les bras vers le ciel.
« Viens à moi, frère le vent, déchaîne-toi, qu'une bourrasque souffle pour moi !»
Il écarta théâtralement les mains. Kalan resserra à tout hasard les pans de son manteau. Z regarda autour de lui. Rien ne se produisant, le sorcier et l'inquisitrice parurent vaguement déçus.
« Qu'est-ce qui vous prend ? »
demanda Richard.
« Vous avez mangé des baies empoisonnées ?»«
Il apprendra ça plus tard. »
disait en se tournant vers la jeune femme. Elle réfléchit puis regarda Richard.
« Tu sais, on ne propose pas à beaucoup de gens d'entrer dans cette profession. »«
Fichtre et foutre !»
lança Z en se frottant les mains.
« Je regrette de ne pas avoir les livres avec moi. Je parie une dent de dragon qu'il parle de ce sujet. »
Il se rembrunit.
« Mais il y a le problème de la douleur et... »«
De toute façon, »
coupa Richard mal à l'aise,
« tu es un sorcier à la noix. Tu ne portes même pas de barbe. »«
Plaît-il ? »
lança Z, arraché à ses pensées.
« Ta barbe, où est-elle ? Je me pose la question depuis que je connais ta véritable identité. Les sorciers sont censés être barbus. »«
Qui t'a dit ça ? » ?»«
Je ne sais pas, mais c'est de notoriété publique. Les sorciers doivent porter la barbe. Je suis étonné que tu l'ignores. »
Z fit la grimace, comme s'il venait de mordre dans un citron.
« Je déteste les barbes, ça gratte !»«
Si tu ignores qu'un sorcier doit en avoir une, »
le taquina Richard, « tu en sais sûrement moins long sur la magie que tu le prétends. »
Indigné, Z croisa les bras.
« Une barbe, dis-tu, une fichue barbe !»
Il décroisa les bras et passa le bout de ses doigts le long de son menton. Des favoris apparurent sur ses joues. Puis ils s'allongèrent. Les yeux ronds, Richard regarda pousser une superbe barbe blanche qui atteignit vite le milieu de la poitrine de Z. Le sorcier défia son protégé du regard.
« Ça te convient, mon garçon ? »
Richard s'aperçut qu'il était bouche bée. Il la referma et dut se contenter d'un hochement de tête. Le vieil homme se gratta le menton et le cou.
« Très bien. À présent, passe-moi ton couteau, que je me rase. Oh, ça te démange comme une fourmilière. »«
Mon couteau? Pourquoi? Tu n'as qu'à la faire disparaître, voilà tout. »
Callan gloussa mais reprit son sérieux dès qu'il la regarda.
« Ça ne marche pas comme ça, » dit Zed. « Et tout le monde le sait, mon garçon. »
Il se tourna vers l'inquisitrice.
« N'est-ce pas que c'est de notoriété publique ? Explique-lui, mon enfant. »
« La magie utilise des éléments préexistants. Elle ne peut pas défaire ce qui est déjà là. »
« Je n'y comprends rien. »
« Alors, voilà ta première leçon, » dit Zed. « Au cas où tu changerais un jour d'avis. Nous maîtrisons tous les trois une forme de magie qu'on appelle additive. Elle se sert de ce qui existe pour y ajouter quelque chose ou l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Celle de Callan attise l'étincelle d'amour qui brûle dans tout être humain, si petite soit-elle, et l'alimente jusqu'à ce qu'elle se transforme en autre chose. Celle de l'épée de vérité se sert de ta colère et l'exacerbe pour y puiser du pouvoir et la transformer en quelque chose de différent.
Il en va de même pour moi.
Dans la nature, je peux tout transformer. Par exemple, changer un insecte en fleur, faire de la peur un véritable monstre, ressouder un os cassé, ou encore m'emparer de la chaleur qui existe dans l'air et la développer pour générer du feu magique. Dans le même ordre d'idées, me doter d'une barbe est un jeu d'enfant, mais il m'est impossible de la supprimer. »
Une pierre grosse comme son poing lévita soudain devant lui.
« Je peux soulever un objet et le détruire. »
La pierre explosa.
« Tu as tous les pouvoirs ?» souffla Richard.
« Non. Soulever la pierre ou la broyer, mais pas la faire disparaître. » « Où irait-elle ? La magie qui détruit les choses est dite soustractive. La mienne, celle de Callan et celle de l'épée sont de ce monde. Toutes les formes de sorcellerie de notre univers sont additives. Darkenral a accès au même que moi. »
Le sourcier se rembrunit.
« La magie soustractive est originaire du royaume des morts. Ral la maîtrise aussi. Pas moi. »
« Est-elle aussi puissante que la magie additive ?»«
C'est son parfait opposé, comme la nuit pour le jour. Mais elles sont des parties d'un tout. La magie d'Ordaine les englobe toutes les deux. Elle peut ajouter des choses au monde ou le réduire à néant. Pour ouvrir une boîte, il faut être un maître dans les deux disciplines. On ne s'inquiétait pas que ça arrive, parce que personne jusque-là n'était parvenu à exploiter la magie soustractive. Ral réussit sans difficulté.
« Comment est-ce possible ? » demanda Richard.
« Je n'en sais rien, mais ça me perturbe beaucoup. »
« Eh bien, pour en revenir à nos moutons, je persiste à dire que tu fais une montagne d'un petit rien. C'était juste un truc. »
« Si la victime avait été une personne normale, » répliqua Zed, « tu aurais raison. Mais je suis un sorcier qui n'ignore rien de la première leçon. Tu n'aurais pas pu me jouer ce tour sans avoir un don pour la magie. Richard, j'ai formé beaucoup de disciples, et il a fallu que je leur enseigne ce que tu appelles un truc. Sinon, ils n'auraient pas pu l'utiliser. De temps en temps, quelqu'un naît avec le don. » J'ai été du nombre, et toi aussi. Tôt ou tard, tu devras apprendre à le contrôler. »
Il tendit la main.
« À présent, donne-moi le couteau, que je me débarrasse de cette barbe ridicule. »
Richard posa la garde sur la paume de son ami.
« La lame est émoussée, j'ai épluché des racines avec. Si tu traces, ce sera un massacre. »
« On parie ?»
Zed prit la lame entre le pouce et l'index et les fit descendre le long du tranchant. Puis il saisit fermement la poignée. Richard frémit à l'idée qu'il allait se raser à sec. Le sorcier passa vivement la lame dans sa barbe. Une touffe de poils s'en détacha aussitôt.
« De la magie soustractive !»
s'écria Richard.
« Tu as éliminé une partie de l'acier pour aiguiser le reste ?»«
Non !»
répliqua Z, le front plissé.
J'ai utilisé quelque chose de préexistant et reformé le tranchant pour qu'il coupe.
Pendant que son vieil ami se rasait, Richard, quelque peu perplexe, alla rassembler leurs affaires. Callan vint lui prêter main forte.
« Tu sais, Z, dit le jeune homme en ramassant les bols, je crois que tu deviens un peu trop têtu. Quand nous aurons vaincu, tu auras besoin de quelqu'un. Une personne qui s'occupe de toi et qui t'aide à élargir ton horizon. Un être qui stimule ton imagination. Bref, une épouse.
Pardon ?
C'est évident, il te faut une femme. Tu devrais peut-être retourner voir Adi.
Adi ?
Oui. Adi, tu te rappelles ? La beauté qui n'a qu'un pied.
Oh, pour me rappeler, je me rappelle.
Il gratifia Richard de son regard le plus innocent.
« Mais elle a deux pieds, comme tout le monde. »
Richard et Callan se relevèrent d'un bond.
« Quoi ?»«
Eh oui !»
triompha Zed.
« On dirait que le deuxième a repoussé. »
Il se pencha et sortit une pomme du sac de Richard.
« Inattendu, non ?»
Richard tira le sorcier par la manche pour le forcer à se retourner.
« Zed, tu as... »
« Es-tu absolument sûr de ne pas vouloir rejoindre ma confrérie ?»
Il mordit dans la pomme et savoura l'air éberlué de Richard. Puis il lui rendit son couteau au tranchant plus affûté que jamais. Le jeune homme secoua la tête et s'éloigna.
« Mon seul désir est de rentrer chez moi pour exercer ma profession, guide forestier. Rien de plus. »
Il réfléchit puis posa une question.
« Z. J'ai grandi près de toi sans soupçonner que tu étais un sorcier. Tu ne recourais jamais à la magie. Comment as-tu pu t'en priver et pourquoi ?»«
Eh bien, la magie n'est pas sans danger, ni sans douleur. »«
Quel danger ?»
Z dévisagea un instant son jeune ami.
« Tu le sais aussi bien que moi, puisque tu as été exposé à celle de l'épée. »«
C'est différent, justement, parce qu'il s'agit d'un artefact. Quel danger court un sorcier qui exerce son art ?» Et quelle douleur peut-il ressentir ?
Z eut un petit sourire.
Il vient de découvrir la première leçon et il voudrait déjà passer à la deuxième.
Oublie ça, dit Richard en ramassant son sac. Mon seul désir, c'est d'être un bon guide forestier.
Sa pomme à la main, Z se mit en route.
Il me semble que tu l'as déjà dit.
Il mordit à belles dents le fruit à la peau rouge.
« Maintenant, raconte-moi tout ce qui est arrivé après que j'ai été assommé. N'omets pas un détail, même s'il te semble sans importance. »
Richard et Callan échangèrent un regard embarrassé.
« Je ne dirai rien si tu te tais aussi, »
murmura le jeune homme.
« Juré, je ne ferai pas la moindre allusion à ce qui s'est passé dans la maison des esprits, »
souffla l'inquisitrice. À son regard, il sut qu'elle entendait tenir parole. Toute la journée, pendant qu'ils suivaient diverses pistes, toujours à l'écart des voies principales, les jeunes gens se relayèrent pour informer Z de ce qui s'était produit depuis le jour de l'attaque près de la frontière. Au moment les plus incongrus, le sorcier les faisait revenir en arrière pour préciser un détail à première vue sans intérêt. Quand ils en furent à leur séjour chez le peuple d'Adobe, ils réussirent à éviter toute mention de leur débordement dans la maison des esprits. En approchant de Tamarang, ils croisèrent plusieurs routes et commencèrent à voir des réfugiés, leurs possessions sur le dos ou sur de petits chariots. Richard s'assura qu'il ne restait pas longtemps à la vue des gens et se plaçait entre Callan et eux dès qu'il le pouvait. Personne ne devait reconnaître la mère inquisitrice. Dès qu'il revenait dans la forêt, il se sentait immensément soulagé. C'était là qu'il respirait le mieux, même si on pouvait aussi y faire de mauvaises rencontres. Vers le soir, ils durent emprunter la route principale pour franchir le fleuve Kalizidrin. Les eaux étant trop tumultueuses pour une traversée à gué, ils passèrent par le grand pont de bois. Protecteur, Zed et Richard gardèrent Callan entre eux, car beaucoup de gens se pressaient sur le pont. Soucieuse de dissimuler ses cheveux, l'inquisitrice releva la capuche de son manteau. En majorité, les voyageurs se dirigeaient vers Tamarang en quête d'un abri contre les hordes prétendument venues de terre d'ouest. Selon Callan, la ville n'était plus très loin et ils arriveraient le lendemain vers midi. Désormais, ajoutait-elle, ils seraient obligés de suivre la route, mais pour camper, insista Richard, ils devraient se renfoncer dans la forêt le plus loin possible des réfugiés. et il surveilla la course du soleil pour ne pas rater le moment où il devrait bifurquer vers les bois.
C'est confortable, pas vrai?
Rachel fit comme si Sarah avait répondu par l'affirmative et disposa un peu plus d'herbe autour de la poupée pour être sûre qu'elle est chaude. Puis elle posa la miche de pain, toujours enveloppée dans son torchon, près du jouet.
« Tu n'auras pas froid comme ça. Je vais aller chercher du bois avant qu'il fasse trop noir. Après, nous serons toutes les deux au chaud. »
Elle laissa Sarah et la miche dans le pain compagnon et sortit. Le soleil était couché, mais sous les nuages colorés de rose, la lumière restait suffisante. Rachel jeta de petits coups d'œil au ciel en ramassant des brindilles qu'elle coinçait sous son bras gauche. Puis, elle vérifia que le bâton magique était toujours dans sa poche. La nuit précédente, elle avait failli l'oublier et il ne fallait pas que ça se reproduise. Elle regarda de nouveau les nuages et aperçut une grande silhouette noire qui volait au ras des cimes au-dessus d'une colline. Sans doute un oiseau géant. Les corbeaux étaient énormes et noirs comme de l'encre. Ce devait être l'un d'eux. L'enfant ramassa un peu plus de bois. Avisant un buisson de baies en terrain découvert, ses feuilles mordorées par l'automne, elle lâcha ses brindilles et courut vers cette manne. Affamée, elle s'assit devant le buisson et dévora les baies aussi vite qu'elle réussissait à les cueillir. À cette période de l'année, les fruits se ratatinaient et perdaient presque tout leur jus, mais ils restaient délicieux quand on avait l'estomac vide. Un peu rassasiée, Rachel décida de mettre une baie dans sa poche pour chacune qu'elle mangeait. Rampant sur les genoux, elle continua sa cueillette. Un fruit dans la bouche, un autre dans la poche. De temps en temps, elle regardait les nuages qui viraient lentement du rose au violet. L'estomac moins avide et les poches pleines, Rachel récupéra son petit bois et regagna le pain compagnon. À l'intérieur, elle défit le torchon qui enveloppait la miche et fit tomber les baies dessus. Confortablement assise, elle recommença à manger en bavardant avec Sarah, qui refusa presque tous les fruits qu'elle lui proposa. Rachel aurait voulu avoir un miroir pour contempler ses cheveux. Aujourd'hui, elle avait pu se regarder dans une mare. Que sa coupe était belle et si régulière! Richard avait été tellement gentil de s'en occuper. Il lui manquait. S'il avait été là, il l'aurait blotti dans ses bras le soir. Ses bras, l'endroit qu'elle préférait au monde. Si Callan avait été moins méchante, il y aurait sans doute blotti aussi et elle aurait adoré ça. Bizarrement, elle manquait également à l'enfant. Ses histoires, ses chansons, ses caresses sur le front. Pourquoi était-elle mauvaise au point de vouloir faire du mal à Giller, un des hommes les plus adorables de l'univers, celui qui lui avait donné Sarah? Rachel cassa son petit bois pour que les morceaux entrent dans le cercle de pierre. Après les avoir disposés soigneusement, elle sortit son bâton magique.
« Brûle pour moi !»
Elle posa le bâton sur le torchon près des dernières baies et se réchauffa les mains sur les flammes en finissant de manger. Ensuite, elle raconta ses malheurs à Sarah.
Elle aurait voulu que Richard la serre dans ses bras, que Callan ne soit pas méchante, qu'elle ne veuille pas frapper Giller et qu'il y ait ce soir autre chose à manger que des baies.
Soudain, un insecte lui piqua le cou. Avec un petit cri, Rachel l'écrasa d'une tape. Quand elle regarda sa main, il y avait un peu de sang dessus. Et une mouche morte.
Ça, cette stupide bestiole m'a mordu jusqu'au sang.
La poupée sembla désolée qu'elle ait des ennuis. Pour se consoler, Rachel mangea quelques baies. Quand une autre mouche la piqua, elle l'écrasa aussi, mais sans crier. Sur sa main, elle vit une autre tache de sang.
Ça fait mal,
dit-elle à Sarah. Puis elle jeta la mouche écrasée dans le feu. Celle qui la piqua au bras la fit sursauter. Sans pitié, elle l'écrabouilla, mais une autre s'attaqua à son cou.
Il y en avait partout autour d'elle. Deux de plus en prirent à son cou, la faisant saigner avant qu'elle les tue. Des larmes de douleur perlèrent à ses paupières. « Fichez le camp »
cria-t-elle en agitant les bras.
Quelques insectes s'étaient glissés sous sa robe et lui piquaient la poitrine et le dos. D'autres se reposaient déjà sur son cou. Rachel hurla en essayant de les chasser. À présent, des larmes ruisselaient sur ses joues. Une piqûre dans l'oreille la fit crier encore plus fort. Entendre bourdonner l'insecte de son conduit auditif la rendit folle de terreur. Elle y enfonça un doigt pour tenter d'expulser l'intrus. Hurlant de peur, elle sortit du pain compagnon, des mouches collées à ses yeux. Quand elle courut, battant des bras pour s'en débarrasser, ses ennemis la suivirent. Lorsqu'une silhouette se dressa devant elle, Rachel s'arrêta net. Ses yeux remontèrent le long de la créature géante au corps couvert de fourrure. Sur son ventre rose, des mouches s'agglutinaient. Sous les couleurs agonisantes du ciel, le monstre déploya ses immenses ailes et les écarta. Elle ne portait pas de plumes, juste une peau transparente sous laquelle pulsaient des veines. Rassemblant tout son courage, Rachel glissa la main droite dans sa poche. Mais le bâton n'y était pas. Les jambes coupées, la fillette ne sentait même plus les piqûres des mouches. Entendant comme un ronronnement de chat, mais beaucoup plus fort, elle leva un peu plus la tête. Des yeux verts brillants la fixaient. Le ronronnement était en réalité un grognement. La gueule du monstre s'ouvrit pour dévoiler des crocs énormes. Rachel ne pouvait pas courir, ni même bouger ou crier. Son regard comme aspiré par celui de la créature, elle tremblait de tous ses membres. Elle ne savait plus comment faire avancer ses pieds. Une longue griffe se tendit vers elle. Soudain, un liquide chaud coula le long de ses jambes.